En fait, il y a trois grandes missions. La première mission, c'est un rôle consultatif. Ils siègent au conseil consulaire. Normalement, les conseils consulaires se réunissent autour de l'ambassadeur ou du consul au moins deux fois par an. Et là, les conseillers sont consultés sur l'attribution des bourses, sur les subventions aux associations, les aides sociales, l'emploi, la formation, et puis sur les questions de sécurité qui sont, comme on peut l'imaginer aujourd'hui à travers le monde, de plus en plus importants. Le deuxième rôle, c'est la liaison avec les institutions. Ces élus sont un vrai relais entre les électeurs, les expatriés et les représentants de l'État, que sont les ambassades et les consulats. Le dernier rôle est beaucoup plus politique. Ces conseillers sont considérés comme des grands électeurs. Eux-mêmes ont la responsabilité d'élire deux types d'autres élus. D'abord, les conseillers, d'autres conseillers, de nouveaux conseillers qui vont siéger à l'Assemblée des Français de l'étranger. Il y en a 90. Et cette Assemblée des Français de l'étranger, c'est en vrai la vraie courroie de transmission entre les Français de l'étranger et le gouvernement. Et puis, ils sont aussi grands électeurs pour élire les sénateurs des Français de l'étranger. Vous savez qu'il y a 12 sénateurs des Français de l'étranger. En septembre de cette année, septembre 2026, 6 des 12 sénateurs, donc la moitié, vont remettre en jeu leur siège.
Quelles sont les modalités de vote?
Il y a une première condition préalable, il faut être naturellement inscrit sur la liste électorale consulaire. Et j'invite les Français de l'étranger à vérifier cette inscription. L'inscription est possible, il faut le noter, jusqu'au vendredi 24 avril. Comment peut-on voter? Alors, il y a trois possibilités de vote. Le premier est beaucoup plus traditionnel, vous vous rendez au bureau de vote. Le 30 mai 2026 pour le continent américain et les Caraïbes. Et le 31 mai pour le reste du monde. Votre bureau de vote, en fait, va dépendre de votre adresse de résidence. Vous allez recevoir par mail ou par courrier postal une lettre de convocation qui va détenir les coordonnées de votre bureau de vote consulaire. Et ça, vous allez la recevoir quelques semaines avant le scrutin. L'autre type de vote, c'est le vote par Internet du 22 mai 12h, heure de Paris, jusqu'au 27 mai 12h, heure de Paris. Et là aussi, je vous invite à mettre à jour vos coordonnées figurant sur le registre des Français de l'étranger. Donc, allez vérifier si vous êtes vraiment bien inscrit avec vos bonnes coordonnées. Parce qu'en fait, l'administration va vous envoyer votre identifiant par courriel pour voter par Internet et aussi votre mot de passe par SMS. Donc, il faut bien vérifier ces coordonnées pour recevoir par mail et par SMS les codes. La troisième modalité de vote, c'est le vote par procuration. Donc, soit vous téléchargez le formulaire CERFA sur Internet que vous remplissez, soit vous pré-remplissez sur le portail Ma Procuration, cette fameuse procuration, mais il faut vous déplacer au consulat, vous faites valider cette procuration et vous la signez en personne. Donc les modalités ont été en fait assez facilitées.
Maître Charles-Henri Chenu avec Corinne Mondjou pour Vivre Ailleurs. La vérification des faits, c'est évidemment un pilier de notre métier de journaliste et au quotidien sénégalais Le Soleil. C'est notre consoeur Fatou Diéry Diagne qui est chargée de cette question. Elle vient de publier un livre intitulé « Résister à la désinformation, journal d'une fact-checkeuse sénégalaise ». Pour l'atelier des médias, Fatou Diéry Diagne s'est confiée à Steven Jambeau sur les impacts que son activité journalistique a sur sa vie de tous les jours.
C'est vraiment un prix psychologique que je paie de jour en jour. C'est très lourd parfois quand on s'affiche. Quand on est visible, quand on fait de la télé, quand on fait de la vidéo, là, notre visage est complètement connu ou bien même parfois le nom. Et j'ai été attaquée sur mon physique, sur ma foi. Et on m'a indexée parce que j'avais juste dit que le coût de l'électricité au Sénégal n'avait pas baissé. C'était l'année dernière. Et on m'a insultée me disant que je n'étais peut-être pas une bonne musulmane parce que ce n'était pas du tout la vérité et que je suis même contre un régime, etc. etc. Donc, ce sont un prix psychologique que je paie. Lourdement, certes, mais la passion, quand même, arrive à me donner davantage de force pour surmonter toutes ces nuits blanches, pour surmonter toutes ces pensées négatives parfois. Voilà, c'est la passion qui m'aide quand même à aller de l'avant. Ils continuent leur critique, moi je continue à faire mon travail.
Vous dites, je mène une vie rangée.
Une vie rangée. Je suis obligée de mener une vie rangée parce que juste une petite photo, un petit commentaire, une petite vidéo, ça peut me valoir non seulement ma carrière, mais aussi c'est une manière de protéger le fact-checking. Parce qu'en fait, quand on incarne quelque chose, après, fait, on assimile votre personnalité à ça. Donc si un jour je suis entendue sur certaines dérives, on va penser que tous les fact-checkers sont comme ça.
Fatou Dieridiagne au micro de Steven Jambeau. Entretien retrouvé en longueur à 11h10 TU sur RFI dans l'atelier des médias. C'est la fin de cette demi-heure d'information internationale. Merci à Benoît Vandenbroek, à la réalisation, Grégory Lesca, à la rédaction en chef. Restez bien à l'écoute de RFI. L'actu africaine arrive dans quelques secondes. RFI, 5h30 à Kinshasa, 4h30 temps universel. Et l'actu africaine, c'est avec vous, Xavier Besson. Bonjour Xavier.
Bonjour Paul, bonjour à tous.
Et à la une, 7 hommes, 8 femmes et de nombreuses questions en République démocratique du Congo.
Kinshasa a accueilli avant-hier un premier groupe de migrants expulsés des États-Unis et la société civile et l'opposition de RDC s'interrogent sur la légalité de leur arrivée et se questionnent aussi sur l'accord qui lie leur pays à Washington, accord qui n'a pas été rendu public. Vous entendrez dans un instant le directeur de l'Institut de recherche en droits humains. Dans ce journal également, le pape Léon XIV en Angola depuis hier, à Luanda, le souverain pontife a fustigé la logique d'exploitation des ressources du pays. Nous serons aussi aux Comores où les stations-service privées parlent de concurrence déloyale de la part de la société comorienne des hydrocarbures. Et dans une dizaine de minutes, les sports, le journal des sports avec Antoine Grenier. On connaît l'affiche de la finale de la Ligue des Champions. Ce sera Mamelodi Sundowns contre les Phare de Rabat. Et ce soir, on saura qui affrontera le Zamalek en finale de la Coupe de la Confédération. Le débat est donc loin d'être refermé en République démocratique du Congo. Après l'arrivée avant-hier à Kinshasa de 15 migrants sud-américains, 8 femmes et 7 hommes, expulsés des États-Unis et accueillis par la RDC, selon les termes d'un accord qui n'a pas été rendu public. Une opacité que dénonce ce matin Maître Hubert Chiswaka, le directeur de l'Institut de recherche en droits humains. Il demande par ailleurs des éclaircissements sur le statut de ces personnes, estimant que leur arrivée en RDC est contraire au droit international.
Ce projet pose réellement un problème juridique parce que ces individus ont été appréhendés aux États-Unis sous le statut de demandeurs d'asile. On n'a pas encore répondu à leur demande d'asile. On les exporte vers la RDC. Non, le droit international l'interdit. Voilà pourquoi nous disons que c'est illégal. On doit d'abord répondre à leur demande d'asile. Quel est leur statut en RDC ? En RDC, ils n'ont violé aucune loi. On ne peut pas les détenir. Il n'y a aucun accord de coopération entre les États-Unis et la RDC qui prévoit à ce que les personnes qui violent les lois aux États-Unis viendront purger leur peine en RDC ou bien viendront juger en RDC. Mmh. Toutes ces questions, comme elles sont floues en droit, nous disons que bon, le gouvernement doit nous éclairer pour que ces personnes puissent être en mesure de défendre leurs droits.
Maître Hubert Chiswaka, directeur de l'Institut de recherche en droits humains à Kinshasa. Des éclaircissements que réclame aussi l'opposition congolaise ce matin sur notre antenne. Vous pourrez entendre Christian Mwando, le chef du groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, membre du parti Ensemble pour la République. Il déplore le manque de transparence des autorités de Kinshasa sur ce dossier, les accusant aussi de brader la souveraineté du pays. La République démocratique du Congo, où l'on reparle encore du FRIVAO, ce fonds destiné à gérer les indemnisations que l'Ouganda a été condamné à verser en réparation de la guerre des six jours autour de la ville de Kisangani en l'an 2000. Un organisme, le FRIVAO, donc créé il y a 3 ans, qui a commencé à verser une partie des 325 millions de dollars décidés par la Cour internationale de justice, mais qui fait l'objet d'accusations de détournement de fonds. Le ministre de la Justice vient d'ordonner l'ouverture d'enquête sur un contrat conclu avec une société congolaise pour la réalisation d'un documentaire. Et ce qui interpelle, c'est la durée du film face au montant dépensé, plus $1 million, pour 6 minutes. Correspondance de Pascal Moulégois.
Selon les communiqués du ministère de la Justice, les informations disponibles font apparaître des fortes présomptions d'irrégularité autour de ces marchés publics. Il est question d'un décaissement de plus $1 million américains, dont une partie resterait sans justification. Dans ces dossiers sensibles, les fonds concernés proviennent du mécanisme d'indemnisation des activités illicites de l'Ouganda dans le nord-est du pays dans les années 2000 via l'établissement public FRIVAO. En toile de fond, un contrat portant sur un documentaire de 6 minutes consacré au Génocide. Les ministères évoquent aussi l'absence de production conforme termes, clauses contractuelles, ainsi que des possibles violations des règles de gestion des finances publiques et des passations des marchés publics. Le ministre Guillaume Ngefa demande donc au procureur général de la Cour des cassations d'identifier les personnes impliquées et d'engager les poursuites appropriées. Audition, perquisition, saisie, réquisition bancaire et gel d'avoir sont également suggérés. De son côté, l'entourage du patron de la société Divo, qui devait réaliser les documentaires, s'est dit serein. Je cite, on est en train de fournir au garde des Sceaux tous les éléments contradictoires qui n'étaient pas à sa disposition selon lui. Pascal Moulegua, Kinshasa, RFI.
À Kinshasa, où les propos du pape pour son premier jour en Angola hier peuvent trouver un certain écho. À Luanda, Léon XIV a fustigé les souffrances et les catastrophes sociales et environnementales engendrées par la logique d'exploitation des ressources du pays. Il a aussi encouragé les autorités angolaises à ne pas avoir peur de la dissidence. N'étouffez pas les visions des jeunes et les rêves des vieux, a affirmé le souverain pontife. Et à l'approche des élections générales prévues l'an prochain en Angola, ce genre de message de la part du chef de l'Église catholique peut faire mouche, estime le père Daniel Mateos, missionnaire espagnol à Luanda.
Comme nous le constatons, ces derniers jours, notre pape Léon n'a pas la langue dans sa poche. Il n'a pas peur de parler et surtout de dire la vérité, de dire ce qui doit être dit, sans se soucier de froisser les dirigeants. Il parlera probablement d'inégalité, de pauvreté et de restriction de liberté ici, en Angola. Cette inégalité est une réalité très visible. J'espère qu'il apportera aussi un message de paix et de réconciliation, car l'année prochaine, en 2027, auront lieu les élections. Beaucoup de gens craignent ce qui pourrait arriver, les résultats, et que ces résultats ne soient pas acceptés par l'une des parties. Nous vivons dans un climat d'attente et de peur quant à ce qui pourrait se produire. Nous espérons donc également que le pape viendra apporter la paix, la sérénité et surtout la réconciliation ici en Angola.
Et surtout cette réconciliation ici en Angola. Le père Daniel Mateos, missionnaire espagnol à Luanda, au micro de notre envoyé spécial en Angola, Cristina Soares. Le pape qui a par ailleurs regretté que ses discours de ces derniers jours soient interprétés comme des réponses au président américain Donald Trump. Le pape qui estime que débattre de nouveau n'est pas dans son intérêt. Dans l'actualité ce matin également, le Nigeria et la Turquie qui annoncent signer un accord militaire pour la lutte anti-djihadiste des forces nigérianes. Un accord qui prévoit notamment la formation en Turquie d'environ 200 membres des forces armées nigérianes. RFI 7h37 à Moroni, les Comores et cette question, où trouver du carburant? 8 stations-services privées montent au créneau. Elles dénoncent des dysfonctionnements dans la distribution du carburant, visant notamment la SCH, Société comorienne des hydrocarbures, la seule autorisée à importer du carburant dans l'archipel. Les stations privées parlent de livraisons irrégulières, estiment que les conditions que la SCH leur impose pour le transport ne sont pas normales et accusent également la société de favoriser sa propre station-service et donc de fausser la concurrence. À Moroni, Abdallah Mzembaba.
À milieu de journée, plusieurs stations privées de la capitale sont fermées. Devant la station de la SCH, en revanche, la file s'étire sur plusieurs centaines de mètres. Abdou attend depuis des heures.
Je suis là depuis 6 heures du matin. Ici, je suis sûr d'en avoir, même si c'est à 20 heures, parce que c'est la SCH qui vend.
Les gérants de stations privées dénoncent des livraisons insuffisantes et inégales au quotidien. Akram Elbeït, co-gérant de la station Elbeït à Moroni.
On est limité aujourd'hui à 8000 litres de gasoil. Seulement, on ne reçoit que la moitié. Normalement, on vend plus que la station de la SCH. Toutefois, ces derniers temps, ils reçoivent plus que nous.
Du côté du patronat, on appelle à revoir l'organisation du secteur pour éviter tout déséquilibre. Hamidou Mhoma, de la nouvelle organisation patronale des Comores.
Nous pensons que la SCH a le droit d'avoir ses propres stations. Si la SCH construit une station, elle ne devrait pas la gérer elle-même parce que le risque de biais serait inévitable. Donc la solution pour nous serait de permettre à la SCH de remettre la gestion de cette station à un opérateur privé pour que tout le monde soit traité au même pied d'égalité.
Contactée, la SCH n'a pas répondu. Les stations privées, elles, demandent une répartition plus transparente du carburant, un meilleur contrôle logistique et l'égalité de traitement entre tous les opérateurs. Abdelham Zembaba Moroni, RFI.
Des Comores à Madagascar, avant le journal des sports dans une minute. Madagascar, où le président de la transition, le colonel Randjani Rine, celui de l'Assemblée nationale, nationale, ainsi qu'une bonne partie du gouvernement et des députés. En bref, une bonne partie de la classe politique malgache. Et ce week-end, dans le sud de la Grande Île, précisément à Tuléar, pour y célébrer le tsapik, un genre musical typique de la région, récemment consacré par l'UNESCO. Et l'occasion aussi pour le chef de l'État d'évoquer des investissements dans ce qui est sa province d'origine. Correspondance de Guillaume Fabry.
J'appelle les députés et les ministres à danser avec moi. Allez !
Les vidéos partagées par des internautes malgaches montrent Mickaël Ranjanirin en treillis se déhancher vendredi soir au stade Maître Kira de Tuléar. Il est venu célébrer le tsapik, rythme du sud-ouest, classé en décembre au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Mais le président de transition a aussi adressé un message à cette partie du pays, enclavée et historiquement délaissée.
Depuis toujours, la province de Tuléar a été la plus pauvre et le cadet des soucis des dirigeants. Mais aujourd'hui, Tuléar est la première des provinces, grâce au tsapik. Malgré notre budget assez serré, nous allons faire de notre mieux pour la développer.
Face à 20 000 personnes, Mickaël Ranjanirin, premier président malgache originaire du Sud, a évoqué plusieurs projets.
Il y a un mois et demi, je suis venu ici pour inaugurer une usine de production d'engrais. Bientôt, nous allons installer une usine d'huile alimentaire à Tuléar. Une entreprise est actuellement à pied d'œuvre pour bitumer la portion de route entre Sakara et Vineta. Une autre construit une route pavée à Saint-Augustin.
Le chef de l'État n'a en revanche rien dit sur le méga-projet minier Varamada, qui prévoit la création de milliers d'emplois dans le sud-ouest. Mais certaines communautés locales s'y opposent, craignant notamment des pollutions, tout comme le président de l'Assemblée nationale, Siten Ranjana Souluniaik. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
À Antananarive, il est 7h41.
Afrique Matin sur RFI.
Et à suivre dans Afrique Matin, le dernier épisode de notre semaine de reportage consacré aux 3 ans de la guerre au Soudan. Nous sommes ce dimanche au Tchad avec des réfugiés arabes soudanais à l'écart des autres réfugiés car assimilés au paramilitaire FSR, l'un des camps belligérants. À suivre aussi nos rendez-vous du dimanche 100% création. Et il y a quoi sur tes réseaux aujourd'hui? Il y a des vidéos de cuisine sur les réseaux sociaux de Linda à Kinshasa en RDC. Et tout de suite, les sports. Le journal des sports à Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Du football, les demi-finales, retour de la Ligue africaine des champions et l'Espérance de Tunis qui n'a pas réussi à refaire son handicap sur les Mamelodi Sundowns.
Mais non, au contraire, les Sud-Africains l'ont une nouvelle fois emporté 1-0 pour se qualifier pour leur deuxième finale consécutive. Le seul but du match a été marqué à la 35e minute après une touche risquée. Le goal, le Marocain Béchir Ben Saïd récupère mal le ballon et fait faute sur Brian Leon qui vient lui mettre la pression. Carton jaune, pénalty transformé en deux temps par l'attaquant colombien. Le coach Patrice Baumel quitte l'Afrique du Sud avec un goût amer. Pour lui, l'arbitre n'aurait pas dû siffler pénalty.
Le plan était vraiment respecté, on récupérait des ballons, on avait des possibilités de les prendre en contre. Et une décision stupide qui, à mon avis, j'ai vu les images, c'est un pénalty imaginaire qui a changé la donne. Et après, en fait, quand vous courez après le score, vous devez faire des changements qui ne sont pas forcément tout de suite dans le plan de jeu. Et donc le match a été tout autre. Mais en tout cas, je tiens à féliciter tous les athlètes parce que c'était un vrai match de Champions League africaine, une vraie demi-finale. Il y avait quand même du spectacle, deux équipes qui se sont données à fond, tout le monde a fait des efforts. Je suis triste mais fier d'être le coach de l'Espérance de Tunis et je tiens à féliciter les joueurs et aussi nos supporters qui ont été fantastiques et je suis triste pour eux aussi parce qu'ils méritaient encore mieux que ça.
Patrice Baumel avec Valentin Hugues dans l'autre demi-finale retour. Malgré sa défaite 1-0 sur le terrain de la Renaissance Berkane, l'AS FAR de Rabat se qualifie et affrontera les Sundowns en finale.
Et en Coupe de la Confédération, place à la seconde demi-finale retour.
Qui accompagnera les Égyptiens du Zamalek en finale? Réponse ce dimanche à l'issue de la rencontre entre les Marocains de l'OSCE Safi et les Algériens de l'USMA. À l'aller, les deux équipes se sont séparés sur un 0-0, Safi-USMA, 19h temps universel.
Et on termine Antoine avec le judo, dernière ligne droite avant les championnats d'Afrique.
47e édition prévue à Nairobi, parmi les nations ambitieuses, le Cameroun. Après les 3 médailles de 2025, la fédération camerounaise et son président Alain-Christian Kingé visent cette fois les 10 podiums.
Notre objectif précis, c'est d'avoir au moins 2 médailles d'or et d'avoir au moins une dizaine de médailles. Nous avons des valeurs montantes, notamment Sopimbe Larichelle Anita, qui était aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Nous avons également Baba Macha Marie-Céline, qui a été médaille d'or au dernier Open de Dakar. Chez les garçons, nous voulons qu'ils recommencent à monter sur le podium. Le dernier podium chez les garçons date de 2024. Et notre objectif est de marquer des points pour le ranking mondial. Vous savez, nous sommes en course pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028. Et il est question pour nous de nous y prendre assez tôt. Vous savez, les qualifications commencent 2 ans avant. Donc voilà, l'équipe du Cameroun est gonflée. Elle ira du côté de Nairobi avec des ambitions précises. Rester dans le top 5 africain ou être dans le top 3.
Alain Christian Kinguet avec Joël Wadem, les championnats d'Afrique de judo à Nairobi. Ça sera du 24 au 28 avril.
Et merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports.
RFI, toute l'actualité.
Xavier Besson.
Et l'actualité internationale de ce dimanche 19 avril, c'est le détroit d'Ormuz à peine rouvert, déjà refermé. Téhéran reprend le contrôle du détroit, officiellement en raison de la poursuite du blocus américain sur les ports iraniens. Et tout navire s'approchant du passage sera pris pour cible, avertissent les gardiens de la Révolution. De fait, déjà, plusieurs navires ont essuyé plus tôt ce matin des tirs et des menaces de la part des forces iraniennes. C'est le cas pour 2 navires battant pavillon indien. New Delhi a d'ailleurs convoqué l'ambassadeur iranien. Autre front de cette guerre au Moyen-Orient, dans le sud du Liban, un militaire français a été tué, 3 autres blessés. Hier samedi, il faisait partie des casques bleus de la FINUL qui effectuait une opération de déminage lorsqu'il y a eu une embuscade. Selon le président français, tout laisse à penser que la responsabilité de cette attaque incombe au Hezbollah, le mouvement qui nie, lui, cette responsabilité. Et puis dans le prochain journal sur RFI, dans un quart d'heure, reportage en Bulgarie qui vote aujourd'hui, élection législative. Elle est 8e en 5 ans, enjeu notamment la lutte contre la corruption. Et les sondages prédisent une victoire du parti de Roumen Radev, ancien président, favorable à un rapprochement avec la Russie. Et c'est ce matin le dernier épisode de notre semaine de reportage à l'occasion des 3 ans de guerre au Soudan. On vous parle souvent des camps de déplacés qui se trouvent au Tchad, à Adré, juste à la frontière avec le Soudan. Cette fois-ci, notre envoyé spécial s'est rendu dans un autre camp, un peu plus à l'intérieur des terres. Nous sommes près de la grande ville d'Abéché, à Abu Goudam, où quelques mois après le début du conflit, le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés a créé ce camp qui abrite seulement quelques centaines de personnes aux profils sensibles, car ce sont essentiellement des Arabes soudanais assimilé au groupe paramilitaire FSR, l'un des belligérants de la guerre au Soudan, responsable de graves exactions dans la région voisine du Darfour. Reportage de Nadia Ben Mahfoud.
Une 50aine de tentes blanches s'alignent sous le soleil de plomb à quelques minutes de route du centre-ville d'Abu Goudam. Officiellement, c'est un site informel. Officieusement, c'est une zone tampon créée par le HCR. Ici, on a regroupé des profils dits sensibles, des Arabes soudanais. Au Soudan, leur ethnie est associée aux paramilitaires FSR, accusés de massacres à caractère ethnique contre les populations non-arabes, principalement massalites et zahraoua. Alors, pour éviter que la guerre civile ne s'exporte dans les camps du Tchad, le HCR a choisi de les isoler. Abderrahman Abdalil Al-Moubakkar a perdu l'usage de ses jambes pendant la guerre. Il vit ici depuis 2 ans et pour lui, être arabe au Soudan, c'était être une cible de l'armée régulière soudanaise.
Nous, les Arabes du Darfour, on était systématiquement associés au FSR. On avait beau dire que ce n'était pas le cas, l'armée nous disait « Vous êtes FSR ».
Mais cet isolement sécuritaire est devenu un piège humanitaire. Le camp compte moins de 1000 personnes, trop peu pour les standards du programme alimentaire mondial qui n'enclenche ses distributions qu'à partir de 5000 bénéficiaires. Résultat, les assiettes sont vides et par manque de financement, les derniers versements de cash du HCR remontent à décembre 2025. Afef Aboubakar Yahya, mère de 9 enfants, ne cache plus sa colère.
Ils nous ont installés ici et nous ont abandonnés. On se plaint auprès du préfet, mais rien n'y fait et les ONG ne viennent pas ici ou très rarement. Ce sont de généreux donateurs qui nous aident. La dernière fois, c'était pendant le Ramadan. On a eu de l'huile, du sucre, du riz, mais rien depuis. Et ici, il n'y a pas du tout de travail.
Le fils aîné d'Afaf a 25 ans. Il refuse de donner son nom, mais il est transparent sur son envie de rejoindre l'Europe.
Nous sommes détruits par ces conflits entre groupes armés. J'étais étudiant avant, mais quel est mon avenir maintenant que je suis ici? Au Soudan non plus, je n'ai pas d'avenir. Mon avenir n'est pas ici, il est en Europe, en Espagne ou en France. C'est ma seule issue. Mon seul objectif est de rejoindre le circuit pour partir en Espagne.
Une quête désespérée que toute la famille soutient. Afaf, son mari et les 8 autres enfants économisent chaque centime pour financer le voyage clandestin de l'aîné. Nadia Ben Mahfoud, de retour d'Abu Ghoudam, RFI.
Et tous nos reportages de cette semaine sur la guerre au Soudan sont à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio. Et sur ce même sujet, vous pouvez aussi réécouter l'émission 8 milliards de voisins de mercredi dernier. Il y a quoi sur tes réseaux ce matin en République démocratique du Congo? Il y a quoi sur les réseaux de Linda à Kinshasa? On parle de cuisine. Anna Le Serre.
What up, food tubers? Okay, Mr. Oliver here. Today, we're going to cook scrambled eggs.
Recette rapide, geste précis, plat du monde entier, la cuisine est devenue l'un des contenus les plus regardés sur les réseaux.
À la the French way and the American way.
Parmi ceux qui passent du temps à regarder ces vidéos, il y a Linda. Vous vous souvenez de Linda? On l'avait entendue pour un sujet sur la dark romance. Elle est étudiante en droit à Kinshasa, en République démocratique du Congo.
Moi, je suis des cuisiniers dans le monde entier. Ça me permet de connaître des milieux, mais par rapport à leur cuisine. Parce que là, j'apprends à connaître leur culture, mais par rapport à leur cuisine, aux épices qu'ils utilisent, à leur façon de cuire des aliments. Et c'est ce qui fait toute la beauté, en vrai.
Et Linda est loin d'être la seule. Sur TikTok, les contenus de cuisine sont massivement suivis. Le hashtag FoodTok dépasse ainsi les 100 milliards de vues. Dans les comptes favoris de Linda, on retrouve Jamie Oliver, le chef britannique dont elle adore la recette de poulet à la harissa.
Mixed colored peppers, red onions, harissa. And fresh mint.
Il y a aussi Cyril Lignac, le français, dont elle tente de reproduire les pâtisseries.
Je dépose sur ma pâte feuilletée ma frangipane pistache que j'ai légèrement parfumée de fleurs d'oranger.
Ou encore Sherazade Laoudedj, algérienne, qui partage des plats traditionnels du Maghreb.
Bonjour les amis, je vous emmène avec moi en Algérie pour préparer la maqouda.
Mais ces derniers temps, c'est une autre cuisine qui attire particulièrement Linda.
C'est surtout des plats coréens.
Une inspiration qui lui donne envie d'essayer elle-même avec ses propres ingrédients.
Avec des ingrédients congolais. Et c'est super parce que ça matche réellement.
Parmi ses découvertes, une technique a changé sa façon de cuisiner.
La cuisson à vapeur, en tout cas, c'est l'une de mes plus grandes découvertes pour faire coréen. Parce que j'ai essayé de bouillir, ça ne donne pas la même chose. Du coup, la cuisson à vapeur, ça relève un autre goût en vrai.
Ce qu'elle aime aussi dans ses vidéos, c'est la manière dont tout semble simple et rapide.
En même minute, il peut enfourner et commencer à faire la salade pendant que le plat il est au four. Et ça te tente, parce que tu vois, c'est tellement rapide, ça te tente de faire ça. Parce que tu te dis, premièrement, ça ne va pas me prendre de l'énergie.
Linda est arrivée à Kinshasa l'année dernière en repartant de zéro après avoir dû quitter Goma, dans l'est du pays, alors en pleine guerre. Elle me raconte qu'elle avait dû laisser tout son équipement.
J'avais juste pris des habits et tout quand je suis arrivée à Kinshasa. On a recommencé la vie, quoi. Du coup, j'ai tout payé de nouveau.
Dans cette reconstruction, la cuisine reste un fil rouge. Elle aime préparer des plats pour toute sa famille. C'est une vraie source de satisfaction.
Quand je vois la pâte gonflée directement, je suis toute contente, je me dis, voilà.
Et puis, il y a les ratés.
La recette qui m'a plus, où j'en ai vraiment bavé, c'est le pain. Et moi, je me disais, c'est quelque chose de facile. J'ai raté des pains et des pains. Le gâteau, je n'en parle pas. Surtout à la partie de mettre la crème. Là, ça me compliquait toujours. Voilà.
Et Linda continue de regarder, de tester, de recommencer. Alors, bon courage à elle. Et on la retrouve bientôt dans un prochain épisode. Il y a quoi sur tes réseaux? Reviens la semaine prochaine. À bientôt.
Y a quoi sur tes réseaux? C'était la chronique d'Anna Le Serre. Il est 6h53, ici à Paris, c'est l'heure de 100% création. Ce matin, Maria Afonso avec le céramiste Cyril Denry.
C'est pas la terre en elle-même, c'est l'effet qu'elle produit sur le corps. Quand on travaille la terre, on est aussi dans un processus intérieur.
Cyril Denry, maître artisan d'art, céramiste.
J'ai commencé tout de suite sur le tour à pied. C'est censé être plus compliqué, mais pour moi, qui ai un gros passé de jongleur, le corps en mouvement entier avec une jambe fixe, une jambe en mouvement, le bassin qui transmet au haut du corps et tout le corps qui est investi dans le tournage, on centre avec le ventre, on ouvre avec le torse, on monte avec les épaules, les bras, les mains et on finit avec les doigts. Ça a été une vraie révolution pour moi.
Originaire de Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France, Cyril Denry a toujours aimé construire de ses mains. Après l'obtention de son diplôme en architecture, il a poursuivi avec un cursus d'art et design en Angleterre où il découvre la céramique. Puis il se forme grâce aux chaînes YouTube de potiers de tradition. La céramique constitue pour ce maître artisan d'art céramiste un chemin de vie, un moyen d'expression et de croissance personnelle.
J'adore concevoir, j'adore travailler autant le bois que le métal. Que la terre, j'adore le verre. Depuis 2 ans, j'ai un four à bois. On va utiliser 6 à 7 stères de bois par cuisson en 30 heures. Je vais produire 40 stères de bois par an. Donc le métier d'artisan d'art, c'est pas seulement produire des pièces d'exception, c'est aussi être dans la forêt, à bûcheronner. Étant multidisciplinaire,